Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Bonjour Madame Élisée Odia.
Bonjour, bonjour à vous Binaté, bonjour à tous les auditeurs de la radio indienne, Radio Okapi.
Merci. Placide Moukoua, membre de la société civile et premier vice-président de la société civile de la province du Kwilu. Bonjour Monsieur Placide Moukoua.
Bonjour Guimaté, bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les okapistes.
Merci. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kemayou.
Bonjour et merci de votre invitation.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Élisée Odia, journaliste indépendante, Placide Moukoua, membre de la société civile, il est premier vice-président de la société civile de la province du Kwilu et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Nous allons commencer par un commentaire sur les travaux de la conférence minière internationale d'Indaba en Afrique du Sud qui se sont clôturés depuis jeudi 9 février. La RDC, pays minier par excellence, a participé à cet événement avec une délégation conduite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la ministre des Mines, des gouverneurs du Lualaba et du Haut-Katanga, ainsi que de plusieurs conseillers de la primature. Cette année, la conférence avait pour thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». À cette occasion, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a invité les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires en RDC, malgré l'insécurité, surtout dans la partie est du pays. Ces contextes sécuritaires instables et peu freinés, l'enthousiasme de certains a tout de même reconnu le président Tshisekedi avant de rassurer qu'il ne ménagera aucun effort pour un retour de la paix durable dans le pays. Madame Élisée Odia, comment vous appréciez cette grande rencontre, n'est-ce pas, sur le secteur minier qui se tient régulièrement en Afrique du Sud?
Merci de m'accorder la parole. Ça devient une habitude. Ça fait maintenant plusieurs années que se tient cette conférence à Indaba. Pour le compte de la République démocratique du Congo, j'ai envie de me dire, mais pour quelle finalité? J'aimerais qu'on nous donne les résultats de nos précédentes participations à ce grand forum qui est important. Il ne s'agit nullement de remettre en cause la tenue ou l'organisation de ces tels forums, de ces tels assises, mais je crois qu'il faut de temps en temps évaluer. Avant d'aborder un prochain forum, avant de participer à un autre forum, il faut d'abord se dire, au regard de tout ce que nous avons eu à bénéficier du précédent forum, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a changé? Et je crois que ce sont des questions qu'on ne se pose pas. On va seulement, on participe, une présence plus, et ça commence à devenir une présence de trop, parce que concrètement, sur le terrain, rien ne change quand même. Les mêmes difficultés, on revient sur les mêmes choses et on se dit, mais à quoi bon de participer? Je voulais ajouter peut-être rapidement, mais c'est bénéfique. La thématique, elle est importante, surtout pour la République démocratique du Congo qui passe par des zones troubles liées à la sécurité dans sa partie est. Mais il faut dire que cette insécurité dans cette partie du pays n'est pas un frein pour les investisseurs. Il y a des entreprises qui ont parié sur la RDC, qui aujourd'hui sont en train de récolter le fruit de ce pari, on peut dire un peu risqué. Mais ils ont osé croire en la République démocratique du Congo, ils ont cru aux potentialités minières de la République démocratique du Congo et aujourd'hui ils en récoltent le fruit. Et là, il n'y a pas que le Nord et le Sud-Kivu. Il y a une bonne partie de la Grande Orientale également où vous avez des sociétés comme Kibali Gold qui réussissent à faire des exploits en acceptant d'investir ici en République démocratique du Congo. Donc l'instabilité, oui, on en paye le plus cher, oui, en termes d'investissement, oui, mais il faut dire que la RDC sera reconnaissante également à l'endroit de ceux qui veulent parier sur elle pendant ce moment de trouble.
Merci Madame Élisée Odia. Monsieur Placide Moukoua, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a invité les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires en RDC malgré l'insécurité. Mais au-delà de cette invitation aux investisseurs, il y a cette question qui revient chaque fois quand on parle, n'est-ce pas, de l'exploitation des minerais en RDC. C'est cette disparité entre les richesses que produit l'exploitation de ces minerais et la situation socio-économique de la population congolaise. Madame Élisée Odia a commencé même à la relever. Monsieur Placide, vous ne pensez pas que cette rencontre aurait, n'est-ce pas, été une occasion pour les gouvernements congolais notamment de réfléchir, n'est-ce pas, sur les mécanismes à mettre en place afin que l'exploitation de ces minerais procure à la population congolaise une certaine prospérité?
Merci beaucoup, Guy Rachel, pour la parole. Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement. Moi, je pense que le thème, d'abord, pose problème. Le thème pose problème et interpelle au même moment, de par le verbe d'action qui est au début, débloquer. J'ai essayé de fouiner dans les dictionnaires, je vis que débloquer veut dire délivrer du blocus, annuler un blocage, rendre accessible à une autre action. Ça veut dire concrètement que il y a une première action qui a été osée, qui a été essayée, mais qui a été bloquée. Et maintenant, il faut reprendre l'action ou la repenser. Donc, nous nous, nous trouvons dans le deuxième cas. Tout le monde sait, et ce n'est pas un leurre, que toute l'économie de la RDC repose totalement sur le secteur minier. Mais malheureusement aujourd'hui, on nous dit que ce secteur minier-là a été mal pensé et il faut le repenser. Mais aussi, tout le monde le sait, et nos politiciens et nos gouvernants savent que nos minéraux ne nous profitent pas, mais au contraire, sont devenus source de malheur, une forme de pandémie ou d'épidémie qui nous attire malheur, mort, guerre et déplacement tous les jours. Donc, moi je crois qu'il est temps, avec un sommet de ce genre, et c'est le moment de le dire, merci aux organisateurs qui nous invitent à ces sommets-là, ça nous interpelle, ça doit interpeller nos gouvernants pour qu'on repense à juste titre, encore une fois, l'exploitation et la destination des non-minéraux.
Merci, Monsieur Louis Magloire Temayou. À vous la même question. Ces phénomènes n'est pas seulement observé en RDC, ces phénomènes de cette contradiction, n'est-ce pas, entre l'exploitation des minéraux, la richesse que produit cette exploitation et la pauvreté, n'est-ce pas, de la population. La plupart des pays africains sont aussi concernés. Ne faudrait-il pas finalement profiter de ce genre de rendez-vous pour voir comment proposer de nouveaux paradigmes afin que le secteur minier en Afrique contribue véritablement à l'épanouissement, n'est-ce pas, des économies africaines en envisageant, par exemple, de réviser certaines clauses contenues dans les contrats que les gouvernements africains signent avec les multinationales, parce qu'on parle souvent, n'est-ce pas, des contrats léonins.
Oui, absolument. Il y a des contrats léonins qui sont signés entre nos gouvernements et certaines compagnies qui doivent être révisées. Ça, je crois que c'est la base même de la discussion par laquelle il faudrait commencer. Ils ont été signés à des moments où nos États n'étaient pas forcément bien outillés, à la fois sur le plan des ressources humaines et sur le plan des ressources financières, n'étaient pas suffisamment outillés pour négocier face aux mastodontes auxquels ils avaient affaire à cette époque-là. Et donc, les contrats continuent de courir. Et même aujourd'hui, quand les investisseurs arrivent dans la plupart des pays africains, ils arrivent comme des messies. Nous sommes à la recherche des investissements directs étrangers. Et donc, les États, même s'ils ont la capacité de nuancer l'apport des investisseurs qui arrivent, ne se sentent pas toujours les coudées franches pour le faire, parce que c'est de l'argent frais qui arrive à travers les investissements qui sont effectués. C'est la perspective de réduire le chômage, c'est aussi la perspective d'arriver à relancer le secteur économique et d'attirer d'autres investisseurs à travers ceux qui arrivent. Donc ça pose ce problème-là qui affaiblit les États, qui avaient déjà été affaiblis par la signature d'accords qui n'étaient pas vraiment à leur avantage. L'autre question qui n'est pas toujours posée et qui devrait, de mon point de vue, l'être, c'est pourquoi les États africains arrivent toujours en situation de demandeur, en situation d'impasse dans les négociations, parce que on avait parlé de la mondialisation et celui qui a eu une définition que je trouve très pertinente de cela, c'est Léopold Sédar Senghor, qui disait que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ce n'est pas que le recevoir. Et la plupart du temps, dans les négociations concernant les investissements, concernant l'industrialisation, concernant le développement, les pays africains arrivent en position de demandeur. Et quand on est demandeur, généralement, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et c'est le problème qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos pays ne se sentent pas suffisamment forts, d'une part, face aux entreprises, d'autre part, face aux entreprises appuyées par leur pays d'origine, qui sont souvent les grands partenaires bilatéraux de coopération avec les nôtres. Et donc je crois que si nous voulons nous en sortir de ce cycle-là, il faudrait arriver à faire en sorte non seulement d'encourager les investissements pour l'extraction brute, mais également diversifier nos économies. La RDC est partie sur ce chemin. Il y a beaucoup de pays africains qui tentent l'aventure de diversifier en donnant, par exemple, un peu plus d'importance à l'agriculture qui permet de nourrir et puis de vendre les excédents à l'extérieur. Et l'autre aspect qui pourrait être étudié, c'est celui de véritablement investir dans les chaînes de valeur, de sorte qu'il ne s'agisse pas uniquement d'extraction brute, mais également de pré-transformation, voire de transformation complète. Parce que tous ces minerais, quand ils sont extraits, ils sont vendus sur le marché international à des prix quasi modiques, mais le produit fini qui revient à des prix qui sont au-dessus de la capacité d'achat de la plupart des Africains. Plus de 2/3 des Africains sont incapables d'acheter les produits qui sont fabriqués avec ces métaux précieux dont nous avons la matière première, mais dont nous n'assurons pas la transformation ni la pré-transformation, et donc avec lesquels nous inondons le marché aujourd'hui de l'industrie, du commerce et des hautes technologies. Donc je crois que de mon point de vue, il faut élargir la focale pour ne pas uniquement voir ce que l'investissement direct étranger peut apporter aux États, mais voir comment les contrats peuvent être négociés, voir également comment l'Afrique peut être en position, non pas seulement de demander des investissements, mais de trouver elle-même le moyen d'extraire ou d'être à égalité dans l'extraction et donc dans le retour sur investissement par rapport à l'extraction des minerais. Et puis après, pourquoi pas, voir dans quelle mesure on pourrait diversifier davantage nos économies pour ne pas être dépendants uniquement du secteur des industries extractives.
Justement, au sujet de ces processus de diversification des économies africaines, au-delà des discours des dirigeants africains, on ne sent pas, n'est-ce pas, cette volonté de diversifier leurs économies. Ça peut être dû à quoi, M. Louis Magloire Kemayou?
Je crois que la plupart de nos pays sont encore beaucoup trop tendres sur la scène internationale pour affronter les tigres que sont devenus la plupart des pays industrialisés qui veulent consolider leur position. Ils le font déjà par rapport aux BRICS, qui sont les nouveaux pays développés. Et puis, il y a les pays qui sont aujourd'hui devenus le chef gardé, c'est-à-dire l'Afrique qui est le réservoir de tous les grands minerais qui sont exploités aujourd'hui dans le commerce et la mondialisation. Donc, si les pays africains sont dans cette position de faiblesse, peut-être qu'il faudrait réfléchir à voir comment, sur le plan régional, non pas un pays, mais des blocs de pays pourraient se constituer pour créer des chaînes de valeur et arriver à diversifier pour ne plus être concurrents. Vous prenez en Afrique de l'Ouest, par exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ce sont de grands producteurs de cacao. À eux seuls, ils assurent plus de la moitié de la production du cacao mondial. Cela dit, on est content d'être champions dans ce domaine-là, mais ils sont concurrents entre eux. Donc, on pourrait s'arranger pour que si le cacao est produit en Côte d'Ivoire, on ait une école au Ghana qui soit capable de former les jeunes à la culture, puis à la transformation des fèves de cacao, et puis qu'on arrive également au-delà de ça à avoir d'autres éléments qui permettront d'avoir une chaîne de valeur vertueuse qui ne fasse pas que nous soyons complètement dépendants de l'extérieur. Ça, c'est juste sur la partie transformation et création de chaînes de valeur. Après, sur la capacité de négociation, il faudrait que nous soyons aussi capables, sur le plan juridique, de nous armer suffisamment pour renégocier les contrats et puis avoir la latitude aussi par moment de dire on va faire une halte, observer une pause dans le règlement de nos dettes pour d'abord renforcer les secteurs les plus prioritaires qui sont les secteurs sociaux. Et si on les renforce à travers l'éducation, à travers la santé, à travers l'emploi, il est probable qu'après on aura un peu plus de latitude pour s'occuper des autres secteurs où on aura formé suffisamment de citoyens aptes à prendre le relais et donc à aller apporter des revenus que l'État ne pouvait pas avoir à ce moment-ci. Donc pour moi, la question n'est plus uniquement de savoir si on peut, grâce à l'investissement direct étranger, développer nos pays, mais de voir comment nous pouvons concevoir des modèles de développement endogène au niveau de l'Afrique sans nous faire concurrence. Et même si on ne peut pas faire les États-Unis d'Afrique tout de suite, qu'on fasse un schéma qui permette aux différents États d'être un peu plus forts qu'ils ne le sont sur la scène internationale lors de leurs négociations entre États ou alors lors de leurs négociations avec les grands groupes industriels qui sont des multinationales.
Merci. On va prendre une petite pause avec Article 15 de Pécalé et on revient tout de suite après.
Article 15, maman, débrouillez-vous pour vivre au Lukata.
Article 15, édité en 1985 à travers cette chanson, Pepe Kale encourage l'esprit d'initiative. Kabasele Mpanya alias Pepe Kale, leader de l'orchestre Empire Bakuba, nous a quittés le 28 novembre 1998 à Kinshasa, paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Les chefs d'État de l'EAC ont recommandé samedi 4 février la cessation immédiate des hostilités entre les FARDC et les groupes armés sur toutes les lignes de front dans le Nord Kivu et la poursuite du déploiement des troupes d'autres pays membres de cette communauté. Cette décision a été prise à la clôture des travaux du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC le même samedi à Bujumbura au Burundi. Le communiqué final qui a sanctionné cette réunion exige en outre que tous les protagonistes engagés au front puissent se retirer. Tout ce processus sera accompagné par le dialogue de tous les groupes armés, poursuit le communiqué. Entre-temps, une vive tension a été observée lundi 6 et mardi 7 février dans la ville de Goma, où des jeunes ont barricadé des routes pour dénoncer l'inaction de la force de l'EAC et son départ du sol congolais. On revient encore à vous, Louis Magloire Kemayou. Vous êtes journaliste camerounais, vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet?
J'ai choisi le sujet parce que nous assistons quand même à quelque chose qui est dramatique. S'il ne s'agissait pas d'autant de vies humaines qui sont hypothéquées et sur lesquelles les sommets se tiennent chaque année, se ressemblent et malheureusement restent aussi stériles les uns que les autres, on pourrait en rire, ça prêterait à rire. Mais ça fait 30 ans aujourd'hui que l'Est de la RDC est déstabilisé. Ça fait 30 ans que, pour des raisons humanitaires, on a demandé à l'ancien Zaïre, la République démocratique du Congo, d'accueillir des réfugiés qui venaient d'un pays voisin pour les abriter sur son sol. Et cela a créé un désordre dans le pays dont personne aujourd'hui ne semble s'occuper. Bien sûr, il y a la mission des Nations Unies sur place. Bien sûr qu'il y a des initiatives diplomatiques qui ont été menées. Mais pour combien de résultats? On n'a aucun résultat. Et au bout de 30 ans, je pense que les vraies questions devraient être posées pour sortir de cette situation dans laquelle on a l'impression que le malheur de la RDC n'intéresse pratiquement personne. C'est la gâchette du continent africain, comme le disait quelqu'un, mais c'est d'abord une gâchette pour ses populations. Un pays aussi immense, qui est le plus grand pays francophone dans le monde, ne peut pas faire face à une telle indifférence de la part de ses nombreux voisins d'abord, ensuite des pays africains dans leur ensemble, et puis à côté de ça, de toute la communauté francophone, voire de toute la communauté internationale. Moi, ça me sidère, et je ne sais pas en quels mots on peut se prononcer sur ce dossier pour que l'ensemble des parties prenantes comprennent que trop, c'est trop. Massacrer autant de populations, déplacer autant de populations, mettre en souffrance l'économie d'un pays pendant une aussi longue durée, cela ne doit plus être accepté aujourd'hui. Je salue l'initiative qui a consisté à aller soulager les souffrances des Ukrainiens face à la Russie, mais nous avons là un dossier qui a plus de 30 ans et qui semble mourir de sa propre mort autant que les populations du pays. Pour moi, je n'ai pas de mots et je n'arrêterai jamais de dire à quel point je suis déçu que la diplomatie africaine et que la diplomatie internationale n'a pas réussi à montrer son humanité vis-à-vis de la RD Congo.
Merci, Madame Élisée Odia, vous êtes journaliste indépendante. De plus en plus, l'opinion aussi publique que politique réclame le départ de la force régionale. Et à votre avis, quelle position le gouvernement congolais devrait-elle adopter pour ne pas se mettre à dos aussi bien, n'est-ce pas, ses partenaires de l'EAC que son opinion publique?
Alors, déjà, je commencerai par dire, quand nous avons suivi et pratiqué là, il y a le récent briefing de porte-parole du gouvernement de la RDC, Patrick Muyaya, a dit que le gouvernement congolais n'avait pas signé le communiqué final de Bujumbura. Pourquoi? Parce que ce communiqué-là, pour le gouvernement congolais, ne reflétait pas la quintessence des échanges qu'il y a eu entre les différents chefs d'État. Donc déjà, ce point de vue, ça pose problème quant à la prise en compte des résolutions issues de ce sommet, ces énièmes sommets. Le gouvernement congolais, par exemple, qui dit il reconnaît pas. D'où il y a eu une mise au point du vice-premier ministre des Affaires étrangères qui est pratiquement battu en brèche, tout ce qui a été dit, ou tout ce qu'on nous a dit, qui a été dit pendant cette ce sommet-là. Et déjà, vous voyez que tous ceux qui se réunissent là n'arrivent déjà même pas à se mettre d'accord pour ne serait-ce que pendre ou mettre ensemble des idées autour d'un communiqué. Ils se posent un problème. Les gens, ils sont pas d'accord sur tout ce qui se passe et même dans la manière dont cela se passe.
Et par rapport à cette position embarrassante, n'est-ce pas, de la RDC, et à votre avis, comment le gouvernement congolais doit se comporter? Quelle position devrait-il prendre quand on sait qu'il y a des gens qui lui disent on ne veut plus de cette communauté de l'Afrique de l'Est, on ne veut plus de cette force régionale? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit céder, n'est-ce pas, aux exigences de son opinion publique, ou il doit aussi chercher à cajoler ses partenaires de l'EAC?
Non, mais en une phrase, je risque de vous reprendre en disant oui, il doit quitter l'EAC, parce que c'est la demande de la population, d'une grande partie de la population, pas seulement de l'Est du pays, mais également de l'Ouest, en tout cas de toute la République démocratique du Congo, même si certains diront qu'on n'a pas fait des sondages, mais quand vous arrivez à poser ça et là des questions, et au regard des manifestations auxquelles nous assistons depuis un temps à Goma, au Nord Kivu, c'est un fait que les gens ne veulent plus cela. Mais bien avant même d'adhérer, il y avait des gens. Il y avait le côté politique quand même, en RDC. En intérieur, les voix s'étaient levées pour dire non, il ne faut pas aller dans l'EAC. Dans l'EAC, vous avez qui? Vous avez tous ceux qui nous font la guerre. C'est un peu paradoxal de prétendre demander de l'aide à ceux-là qui vous font la guerre. C'est paradoxal. Vous avez le Rwanda qui fait partie de la guerre, vous avez l'Ouganda qui fait partie de la guerre. C'est vrai, il n'y a pas que ces deux pays-là, mais je pense que c'est quand même un peu paradoxal de demander de l'aide à ceux qui vous font la guerre, à ceux qui ne jurent que par la déstabilisation de votre pays. Le gouvernement devrait prendre son courage à deux mains, moi je le dis. Le président de la République doit se rendre compte d'une évidence que l'adhésion à l'EAC a plus apporté des problèmes que de solutions, contrairement à la SADC, parce que vous avez vu en 2013, quand la SADC était là, si je ne me trompe pas, et c'est grâce à la SADC, via les Nations Unies, bien entendu, une résolution de Nations Unies, que le gouvernement congolais de l'époque avait réussi à mettre hors de tas de nuire, en tout cas à repousser le M23 et à mettre quand même un terme aux velléités de certains voisins de la velléité hégémonique, expansionniste, déstabilisatrice des voisins congolais. L'EAC, au bout d'un temps, il ne remplit déjà pas ses engagements. L'EAC, on nous avait dit, ce serait une force au vocisme. Aujourd'hui, on assiste à l'EAC qui répare la tuyauterie de la régie des eaux. C'était pas ça le mandat de l'EAC. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'EAC qui se retrouve à réhabiliter les transformateurs pour accorder les... Non, ce n'était pas ça le travail de l'EAC. On se rend compte que ce TAC-là est quand même pas qu'un peu hypocrite. Ce TAC-là n'a pas la volonté d'être cette force offensive à laquelle les gens espéraient tant. Ce TAC-là n'est pas là pour les biens de Congolais. Ce TAC-là n'est pas là pour essayer de résoudre ces problèmes. Bien au contraire, ce TAC-là est en train d'envenimer le problème, parce qu'aujourd'hui, au-delà de la situation sécuritaire qui est déjà précaire, on n'a pas besoin d'un soulèvement populaire. Et le président de la République doit tenir compte de ça. Faut pas qu'il se dise, oui, je dois contenter les partenaires de l'EAC et refuser et refouler ce que pense la population. Au final, ce ne sont pas l'EAC qui avait élu Félix Tshisekedi, c'est bien sa population qu'il avait élu. Et cette population-là, pas que de l'Est, mais de toute la République démocratique du Congo, ajouter à cela toutes les forces politiques, y compris même de l'Union sacrée aujourd'hui, qui est la plateforme qui soutient le président Tshisekedi, est en train de demander le départ de l'EAC. Alors, pour moi, c'est une question de temps, peut-être d'harmonie, mais il faut que le président de la République, le gouvernement Sama, puisse prendre son courage à deux mains et dire non, on reconnaît avoir commis une erreur, commis une faute, en adhérant à l'EAC, en demandant aux forces de l'EAC de venir nous soutenir. On doit essayer de tourner nos regards ailleurs pour des stratégies, vers des structures, vers des organisations beaucoup plus efficaces et qui nous aideront à mettre un terme à cette tragédie de l'Est qui dure depuis plus de 30 ans.
Merci, Madame Élisée. Monsieur Placide Moukoua, membre de la société civile, premier vice-président de la société civile de la province de Kwilu. Au début, lorsqu'il avait été, n'est-ce pas, annoncé le déploiement de cette force régionale, tous les partenaires, dont la RDC et les autres membres de cette communauté de l'Afrique de l'Est, semblaient parler le même langage selon lequel la force régionale aura comme mission d'utiliser la force si le M23 refusait, n'est-ce pas, de se retirer des zones occupées. Mais à votre avis, qu'est-ce qui peut avoir, n'est-ce pas, changé entre-temps pour que les mêmes partenaires aujourd'hui puissent avoir des points de vue divergents sur, n'est-ce pas, la mission de cette force? C'est ce que nous constatons sur le terrain, hein, parce que pour le gouvernement congolais, c'est une force offensive, tandis que pour l'EAC, apparemment, c'est plutôt une force d'interposition. Qu'est-ce qui peut avoir changé pour qu'aujourd'hui il y ait cette divergence de vue entre les partenaires?
Merci, Guy Maté. Il faut se dire d'abord que la RDC n'a pas sa place dans cette EAC. Ça, c'est ma conclusion et j'y reviendrai. Ces gens-là, ils se moquent des Congolais. Regardez d'abord les communiqués final qu'ils diffusent. Ils les diffusent en anglais, alors qu'ils savent que nous parlons français. Ça signifie que nous allons d'abord fournir des efforts pour comprendre leur communiqué final. J'apprends aujourd'hui, je n'ai pas suivi Patrick Muyaya, mais j'apprends aujourd'hui que la délégation congolaise ne l'a pas signé. C'est une bonne chose. Donc, eux, ils s'arrangent à se moquer de nous, à nous faire avaler des choses, alors que nous ne sommes pas d'accord avec leur démarche. Ils viennent dans leur sommet extraordinaire pour évaluer la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils évaluent une situation. Allons chercher, qu'est-ce qui a changé entre-temps sur terrain? Ce qui a changé, si eux ne savent pas, moi je le sais, c'est le nombre de villages et de kilomètres en plus que le Rwanda, à travers le M23, a conquis. C'est ça qu'ils viennent évaluer effectivement au Congo. Et quand ils viennent évaluer, ils se disent, bon, en ce moment ici, nous ne pouvons pas nous mettre en force d'interposition, aller combattre les M23. Au contraire, nous devons demander aux Congolais de ne pas combattre, de quitter Bukavu, de quitter Goma, de quitter Kisangani, pour que les M23 et les Rwandais se déploient sur le terrain. C'est ça ce qu'ils sont venus faire au Congo. Regardez, l'EAIC là, c'est comme une fourmilière, c'est comme la case du sorcier. Et c'est comme on dit chez nous en Lingala, les Sanga ya Banganga. Et c'est malheureusement là-dedans que nous sommes allés manger. Nous sommes allés manger avec les diables sur sa table. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est simplement quitter. Le pouvoir de la RDC doit écouter la voix de ses enfants, la voix de sa population, la voix de son peuple. Nous ne voulons pas de cette RDC-là, parce que nous avons nos alliés. Au moment où eux, les RCD et les autres, nous ont fait la guerre, nous avons nos alliés auprès de qui nous avons recouru et nous avons trouvé solution à notre problème. Mais regardez ce que ces gens-là aujourd'hui nous amènent. Ce qu'ils viennent, c'est déployer en RDC, faire le tourisme et puis s'asseoir sur la terre de la RDC au moment où le M23 nous fait la guerre, au moment où on demande à notre armée, regardez les recommandations, cessation des hostilités. Les FARDC cessent de combattre, eux, ils contournent, ils se déploient sur terrain, ils encerclent nos militaires. Ils disent, au second point, déploiement des troupes des autres pays pour venir s'asseoir et pour venir augmenter le nombre de vallées des balkanisateurs en RDC. Se retirer des lignes de front, c'est bien. Au moment où les FARDC s'arrangent à se retirer des lignes de front et à se désengager, c'est en ce moment-là que le Rwanda et les M23 se déploient sur le terrain. Et en fait, ils nous amènent sur le chemin du dialogue. Alors qu'ils savent très bien que et la population et le gouvernement congolais ne veulent pas entendre parler de ces dialogues-là. Parce que du dialogue, qu'est-ce qui viendrait? Du dialogue résulterait des formules comme le brassage, le mixage et autres intégrations qui nous amènent encore des taupes au sein de nos institutions et au sein de notre armée. Et merci. Nous, Congolais, nous avons compris que notre malheur vient de là. C'est ça que nous ne voulons pas.
Merci.
Nous ne voulons pas de cette formule-là et nous demandons à notre gouvernement de se retirer de cette histoire des ERC-là.
Merci, Monsieur Placide Moukoua. Chers auditrices et chers auditeurs, la qualité en RDC, c'est aussi la qualité musicale. Nous allons donc écouter au pur ce single composé par Félix Wazekwa et Koffi Olomide qui consacre, n'est-ce pas, la réconciliation entre ces deux géants de la musique congolaise moderne. On écoute donc au pur et on revient après.
Au pur, au pur. Taylor Lubanga. L'expertal. Hugues Golondili. Motema nangai sali yango sans commission. Mokolo kuya ekozala début à ma riche saison.
Bilisa ma pata zambu penon ki sambula. Na motema nangai amour ya taïla yekola. To komi na mode ya love moto nyonso deux à deux. Voiture ekobio tambula na mo sans plaque. Kasinga na koko kate ko fifa sario. Taylor Lubangai
Christian Mwando Simba.
My Taylor is rich.
My Taylor is rich.
My Taylor is rich.
My
Taylor
is rich. Son amour me rend de bonne humeur toute la journée.
Blaise Barclays, président.
Ongona yonde veli panda.
Lipanda e
Nanuka kabanda la pota manga wanase.
Tu as fait de mon petit monde une version améliorée du paradis.
Zambé a créé là la belle na 70% yamaï. Aïe baki tina ya opu.
Opu nanaï, maï banira na route. Tomi sope la nanzoto et purifié ni tema.
Aïe maté mon toto.
Expert à
faire rouge.
Maître Tony Mwamba.
Problème
Honorable Patrick Mouno. Serge Kondé. Maître Raphaël Kibuka. Béli Mampa. Maître Claude Niamugabo. Armel Dongou Zidane. Président Godé Wetou.
Aïe. Je suis présente, ma cause a toujours un an avant rendez-vous à mon ailleurs. Pour t'aimer, ça peut être tout, tout calqué, ça l'histoire. Taylor Lubanga, experta.
Peter Wemodinga, Fabrice Kitambo.
Si m'en gagne doucement, ou malheureusement, qu'on serait très forte, on n'est pas en guerre.
Aimé Pascal Mongo, le condamn.
Moto e si alinga vraiment déjà.
Julia Luonga.
Jamais à consommer les sous-sous normal.
Radio Okapi. Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la conférence minière internationale d'Indaba en Afrique du Sud. Nous avons aussi analysé les communiqués finaux du sommet de Bujumbura sur la crise dans l'est de la RDC. Participe à cette émission Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Monsieur Placide Moukoua, membre de la société civile, et le premier vice-président de la société civile de la province d'Ikoulou, est en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou. Il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. L'autre actualité cette semaine, c'est l'accord cadre pour la paix. la sécurité et la coopération pour la RDC et la région signé à Addis Abeba en Éthiopie le 24 février 2013 qui va totaliser 10 ans dans 2 semaines. Cet accord, beaucoup plus connu sous l'appellation d'accord au cadre d'Addis Abeba, avait été signé entre la RDC et 10 pays voisins, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Mozambique, l'Angola, le Burundi, le Congo-Brazzaville, le Soudan du Sud, la Zambie et la Tanzanie, ainsi que 2 autres non-voisins immédiats de la RDC, dont l'Afrique du Sud. De nombreux témoins internationaux ont joint leur signature à cet accord. Il s'agit des 4 organisations supranationales, l'ONU, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL. L'objectif global de l'accord d'Addis Abeba était de mettre fin aux atrocités, à l'insécurité et l'instabilité de la RDC et de la région des Grands Lacs. Madame Élisée Odia, qu'est-ce qui vous a motivé, n'est-ce pas, en optant pour ce sujet?
Ce qui m'a motivé, c'est parce que dans plus ou moins 2 semaines, on va commémorer le 10 ans de la signature de cet accord, si je ne me trompe pas, signé, comme vous venez de le dire, en février 2013 à Addis Abeba. Et moi, personnellement, au regard de la situation actuelle que traverse le pays, j'ai essayé de me dire, est-ce que 10 ans après, il serait pas judicieux pour la République démocratique du Congo de demander et pourquoi pas d'exiger la révisitation de cet accord d'Addis Abeba. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où certains pays voisins, dont le Rwanda et bien sûr l'Ouganda, ont tout fait pour essayer d'isoler la RDC de tout ce qui se passe au niveau de la sous-région. Et pourtant, cet accord avait permis à ce qu'on puisse mettre tout le monde autour d'une même table. Les négociations ne se passaient pas entre la RDC et le Rwanda. Il n'y avait pas de M23. Cet accord, vous l'avez dit, c'est 10 pays voisins de la République démocratique du Congo et les garants de cet accord, et vous avez 4 garants qui sont pas de moindre. Donc, ça sécurisait, ça pouvait aider à faire en sorte que les gens puissent respecter les différents engagements qui ont été pris. C'est vrai, l'année passée, il y a certains acteurs politiques qui se sont levés pour dire que c'était un accord déséquilibré. Vaut mieux un mauvais accord que... Voilà, c'est ce qu'un peu les juristes disent. Et dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, au regard de la panoplie d'accords que nous avons eu à signer ça et là, à mon avis, le bon accord reste celui signé à Addis Abeba, mais et qu'il y a moyen d'essayer de renchérir cet accord, d'essayer d'enlever quand même des écueils qui pesaient autour de cet accord d'Addis Abeba. Vous avez en face, par exemple, un pays comme le Rwanda, qui, faut pas qu'on se leurre, c'est un bon dribbleur. Je vais essayer d'expliquer par une sorte de métaphore. Vous savez, dans une équipe nationale, quand vous avez dans l'autre corps quelqu'un qui s'est dribblé, le sélectionneur s'organise pour essayer d'éviter le face-à-face. J'ai fait un peu du journalisme sportif, donc je me dis ça. On essaie d'éviter le face-à-face. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre un maximum des gens autour de cet adversaire qu'on suppose que c'est un grand dribbleur. Et être dribbleur, c'est pas toujours une bonne chose, surtout en politique. Donc c'est vraiment pas des fleurs que je suis en train de jeter au président rwandais. Mais face à quelqu'un qui est comme ça, qui ne respecte pas ses engagements, parce que dans les accords cadres d'Addis Abeba, aller dans la partie engagement signée par toutes les parties prenantes, on parle de la non-ingérence dans les affaires internes. On parle de non-soutien à certains groupes armés du pays voisin. On parle d'une forme de pacte de non-agression. Tout ce dont le Rwanda n'a pas respecté aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous avez les rapports de Nations Unies qui affirment haut et fort que le Rwanda soutient le 1-23. Là, il ne soutient plus. Le Rwanda est en terre congolaise. Le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo parce que c'est avéré qu'il y a de troupes rwandaises ici en République démocratique du Congo. Alors, si on avait réussi à recadrer quand même cet accord cadre, je crois qu'on aurait pu facilement appeler la communauté internationale, l'ONU, l'OEA à qui je reste nos soutiens, de ce qui se passe en République démocratique du Congo, on ne sait pas pourquoi. Vous avez la SADC qui était là, vous avez la CPGL qui était là. On pouvait avoir un soubassement, on avait un soubassement qui pouvait nous permettre de brandir tout cela aux yeux du monde pour dire, regardez ce qui est en train de se passer, tel n'a pas respecté l'accord, tel est en train de nous taper dessus et exiger à ce que cet accord puisse être respecté. Vous avez le mécanisme national de suivi, et moi, c'est un peu ma crainte. Il y a le mécanisme régional de suivi, ça c'est au niveau régional, mais en interne, vous avez le mécanisme national de suivi. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a étonné, c'est de voir que la personne qui a été placée à la tête de ce mécanisme national de suivi s'est permis d'aller nouer notre accord. Aujourd'hui, on parle de l'accord de Nairobi, on parle de l'accord de Luanda. Pourquoi? Alors qu'il tire sa légitimité de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le mécanisme national de suivi, c'est pas pour le suivi des accords de Nairobi, non. Ça a été institué pour le suivi des accords cadre d'Addis Abeba. Il y a des choses à revoir dans cet accord 10 ans après.
Merci.
Je le reconnais. Mais c'est un accord qui peut nous permettre à nous, Congolais, de ramener toutes les institutions sous-régionales, toutes les structures sous-régionales, régionales et internationales autour de la cause congolaise et par rapport à tout ce qui se passe dans la partie est du pays.
Merci, M. Placide Moukoua. Dans cet accord, Mme Élisée Odia l'a rappelé, il est convenu qu'aucun pays signataire ne doit entretenir ou utiliser des groupes armés pour déstabiliser ses voisins. Or, aujourd'hui, avec cette crise entre les Rwanda et la RDC, nous sommes dans ces cas de figure avec l'utilisation du M23 par le Rwanda. Mme Élisée Odia estime que parmi tous les accords que nous avons signés, c'est le meilleur accord. Mais à votre avis, M. Placide Moukoua, que vaut encore cet accord aujourd'hui quand on voit ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda? Monsieur Placide, dis-moi quoi? Allô? Apparemment, il est parti. Monsieur Louis Magloire Kemayou, je vais poser la même question. Hein. Dans cet accord, est-ce que Monsieur Louis Magloire Kemayou est là?
Oui, oui, je suis là.
Voilà, donc, dans cet accord, il est convenu, comme l'a rappelé Madame Élisée Odia, qu'aucun pays signataire ne doit entretenir ou utiliser des groupes armés pour déstabiliser ses voisins. Or, avec cette crise aujourd'hui entre les Rwanda et la RDC, nous sommes dans ces cas de figure avec l'utilisation du M23 par, n'est-ce pas, le gouvernement rwandais. Et à votre avis, que vaut encore cet accord aujourd'hui quand on voit ce qui se passe, cette crise entre la RDC et le Rwanda?
L'accord tient toujours, malheureusement, l'accord tient toujours, qu'on le veuille ou pas, il existe malheureusement dans les pays cette duplicité qui fait que par moment, c'est pas parce qu'on signe des accords ou qu'on se serre la main qu'on est tout à fait d'accord sur tout et qu'on respectera la parole que l'on a donnée. C'est monnaie courante aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Les gens qui signent ne sont pas toujours ceux qui respectent l'engagement qu'ils ont pris. Et on le vit aujourd'hui avec la RDC et le Rwanda. Et je ne me fais pas d'illusions sur le fait que si en interne, malgré tout ce que nous avons dit sur le fait que la RDC a été abandonnée et que ses voisins, aussi bien les voisins les plus proches que les voisins éloignés, ne lui apportent pas tout leur concours, il y a une nécessité aujourd'hui pour la RDC de se renforcer en interne. Elle ne peut pas uniquement compter sur l'apport de ses voisins, sur la confiance que ses nombreux voisins, parce qu'il y en a quand même 8 ou 9, je ne me souviens plus du nombre de voisins en tout, mais je crois que ce sont 9 voisins, ce n'est pas sur eux qu'elle peut compter. Elle doit d'abord compter sur ses forces, sur la capacité des FARDC à garantir la sécurité, sur la capacité pour le président Tshisekedi de faire ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire de remettre l'Est de la RDC dans le paysage national et de faire en sorte que quand on est dans l'Est de la RDC, on n'ait pas l'impression qu'on est un citoyen entièrement à part, mais que tout l'appareil de l'État est avec vous, que toutes les institutions de l'État sont avec vous et que les dirigeants que vous avez élus sont là pour assurer, entre autres, votre sécurité. Donc je crois qu'il y a ça qu'il faut prendre en compte. Il y a également une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les guerres qui durent, quel que soit le temps qu'elles mettent, finiront toujours par être réglées. L'Angleterre et la France ont eu la guerre de 100 ans, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la première entre la France et l'Allemagne. Ces pays ont fini par se réconcilier. Et j'espère que les cercles dans lesquels ces pays voisins de la RDC et la RDC se retrouvent seront des éléments de rapprochement pour les uns et les autres, parce que j'ai entendu à quel point, peut-être c'est parce que je ne suis pas congolais, que je ne le vis pas de la même manière, mais j'ai entendu à quel point le fait d'appartenir à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est n'était pas une bonne idée. Mais par moments, il faut arriver à négocier pour trouver des terrains d'entente qui permettent qu'on ne soit pas aux antipodes complètement et qu'on finisse par se retrouver d'une manière ou d'une autre, soit rapidement, soit sur un terme un peu plus long, mais il faut créer les conditions pour que cette rencontre se fasse. Et pour moi, appartenir à l'EAC comme à l'Union africaine, appliquer les accords et les rappeler, cela participe de cette dynamique-là de se dire on fait un pari sur la paix et on se dit que même si ça prend du temps, les hommes changeront, les pays resteront et la paix finira par revenir, l'amitié également entre les différents pays.
Merci Monsieur Placide, pourquoi est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis en ligne, merci.
Voilà, nous parlons des 10 ans, n'est-ce pas, de l'accord cadre d'Addis Abeba. 10 ans après, quelle évaluation vous faites de la mise en œuvre de cet accord, Monsieur Placide de Moukoua?
Merci beaucoup. En parcourant les principes énoncés qui constituent les engagements des parties, j'ai quand même constaté que la RDC a fourni des efforts. Et cette fois ici, j'ai dit chapeau à la RDC parce que, à mon avis, c'est le Rwanda et la communauté internationale et même dans une certaine mesure, la MONUSCO qui tergiverse depuis 2013. Je vais en prendre peut-être quatre engagements. Trois. Le premier, il dit continuer à approfondir la réforme des secteurs de sécurité. Je constate qu'au niveau de notre pays, on met en place les académies militaires, les écoles de haute de stratégie militaire qui contribuent à la formation des officiers en matière de sécurité et de stratégie. Je crois que ce sont des efforts qui répondent à cet engagement-là. Consolider l'autorité au deuxième point de l'État à l'Est et pour sécuriser les voisins, ainsi de suite. Je n'ai jamais entendu un seul jour que les ADF ont attaqué à l'Ouganda où les FDLR ont attaqué au Rwanda. Au contraire, c'est chez nous que les ADF et les FDLR, dans une certaine mesure, les ADF tuent tous les jours. Donc, la RDC ne contribue en rien à déstabiliser ni l'Ouganda, ni le Rwanda, de par ces groupes armés qui opèrent chez nous et qui volent chez nous tous les jours.
Mais c'est facile, dis-moi quoi? Et oui. Donc, s'il faut vous comprendre, c'est que pour vous, s'il faut évaluer, n'est-ce pas, la mise en œuvre de cet accord cadre, vous diriez que l'accord cadre n'a pas été respecté.
Non, l'accord cadre n'a pas été respecté, surtout par les États de la région. Ils ne respectent pas cet accord cadre alors que la RDC fournit tous les efforts possibles qu'on lui exige. Alors, est-ce qu'il faut continuer à croiser les bras, il faut continuer à prêter les flancs aux gens qui viennent se retourner contre vous? Moi, je ne crois pas. Je crois que les efforts que la RDC a fournis à ce moment-là sont suffisants et la RDC doit s'organiser de l'interne et ne plus se fier aux accords dans une certaine mesure qui les soumettent au contrôle de ses voisins. Moi, je crois que le comportement que la RDC devrait adopter maintenant.
Merci. On prend une petite pause en écoutant la chanson « Un jour de paix » de Black Renegade et on revient juste après.
Juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. Sais-tu encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les femmes de l'enfer, frères et sœurs, ne lui vendez pas vos cas.
J'aimerais dire que les clés du bonheur se trouvent pas dans les billets de banque. Voir tous ces gens libérés de la peur qui les hante. Qu'aiment la vie, mais celle-ci leur a fait un baiser mortel. Quelques rimes que tu peux comparer aux larmes du soleil. Un jour de paix, quand tu auras des hommes et des femmes qui s'aiment. Mon cœur s'est pointé les commandes. Mais on veut tous une femme présente, même dans la tourmente. Chacun regagne son domicile, comme d'étranger. Ta couleur de peau veut faire de toi un étranger. Tu trouves ça normal? Moi je me sens chez moi n'importe où. Citoyen du monde avec peu de moyens, mais libre au moins. Au fond de moi, j'ai du mal à comprendre Quand je vois c'est mon mal, j'ai du mal nourri. Victime de maltraitance, vitrine, mon cadre de vie. Rongé par le trafic, l'amour au compte-goutte comme les aides humanitaires pour l'Afrique. Au cœur de l'incendie, il suffit pas de se lever du pompier. Traverse les flammes, courageux et brave comme un pompier.
Si la paix pouvait s'embrasser ce monde juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. Sais-t-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs. Ne lui rendez pas vos âmes.
Comment rester insensible? La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain, est-ce possible? Comment rester insensible? Une vie minable dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible.
En tant que Rastaman, je mène mon combat. Je veux la paix, l'amour, mais pour le diable, j'ai des coups de tomba. Lâcherai pas l'affaire, non, je ne baisserai pas les bras. J'y croirai dur comme fer, même quand mon cœur s'arrêtera. Un jour de paix pour nos fils, un jour de paix pour nos filles. Un jour sans que tout parte en vrille. Un jour sans pleurs, sans haine, sans peur, sans peine. Un jour où tombe Babylone.
Je suis un être humain comme tout le monde, je m'arrête aux choses sensibles. Tu sais que même avec le temps, les plus rebelles, ça s'agisse. Je vois de la joie au lieu de la haine dans les yeux des gens. J'ai de la peine quand je regarde les infos et vois ce qui se passe sur d'autres continents. Je vis là où les jours se confondent avec la nuit. Là où aussi on laisse peu de chance aux plus démunis, aux orphelins qui retrouvent l'amour dans un foyer secondaire dès leur enfance.
C'était Un jour de paix avec Black Renegade, de son vrai nom, Alpha Diallo. C'est un rappeur, auteur, compositeur, interprète et chanteur français. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante, Monsieur Placide Moukoua, membre de la société civile et le premier vice-président de la société civile de la province du Kwilu, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais. Il est écrivain et président du Club de l'information africaine. La problématique des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs a aussi défrayé la chronique cette semaine en RDC. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, annonce avoir enrôlé jusqu'au 7 février dernier 64,35% des personnes attendues dans la première ère opérationnelle. La première ère opérationnelle concerne les provinces suivantes: Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tchouapa. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs lancée le 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle se poursuit avec succès selon la CENI. L'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle se poursuit également. Monsieur Placide de Moukoua, vous avez choisi ce sujet. Vous pouvez nous dire pourquoi vous l'avez choisi?
La RDC s'est engagée depuis 2006 dans le processus électoral. 2006, 2011, 2018 et maintenant 2023. Depuis, chaque cycle permet à son début d'organiser l'enrôlement ou l'identification des électeurs. Même si chaque cycle connaît des problèmes, celui-ci, pour moi, est le pire qu'aient connu tous les Congolais depuis l'enrôlement en 2005 des électeurs. Alors qu'on devrait s'inspirer des expériences des cycles passés, des cycles antérieurs, pour l'organisation des élections, transparentes, crédibles, inclusives et apaisées, cette fois-ci, nous sommes en train de sombrer. On a d'abord un personnel recruté sur l'État et mal formé. Du matériel autre que ce qui a servi dans les processus antérieurs, la période d'enrôlement des électeurs a été écourtée, raccourcie de 90 jours à 30. Le nombre de centres d'inscription revus à la baisse, etc. La sensibilisation qui accompagne le cycle électoral n'a pas été faite et aussi les préalables n'ont pas été respectés. Par préalable, j'entends par exemple l'accréditation des témoins et des observateurs qui donnent les crédits au processus électoral, les déploiements à temps du matériel, etc. J'ai eu peur, moi, que, comme on dit, ce qui commence mal finit mal. J'ai eu peur que cette fois ici, l'on finisse pas mal, mais pire que le cycle passé. Voilà les raisons qui ont motivé que moi, je puisse opter pour qu'on discute, pour qu'on réfléchisse sur ces processus d'enrôlement des électeurs en RDC.
Merci. Monsieur Louis Magloire Kemayou, que répondez-vous à ceux qui s'inquiètent du déroulement de ces opérations et qui pensent que cela préfigure, n'est-ce pas, les élections de décembre 2023?
Moi, je crois que de façon générale, il faut toujours considérer que sur le continent africain, la période la plus anxiogène dans la vie de la République, c'est la période des élections. Parce que à chaque fois qu'il y a élection, il y a contestation de la commission électorale, il y a contestation des délais qui ont été fixés, il y a contestation des candidatures, il y a contestation des méthodes. La plupart du temps, on s'entend pas sur grand-chose. Si en plus de cela, on se complique la tâche en changeant tout le matériel, en réduisant les délais pour davantage complexifier des situations qui l'étaient déjà et qui sont sensibles, je pense que c'est comme attirer des abeilles sur sa tête et être surpris après d'être piqué par elles. Donc j'espère que les dirigeants, les organisateurs du processus électoral ont suffisamment pris la mesure des choses et sauront avoir également cette flexibilité qui leur permettra par moment d'écouter les critiques qui sont émises et de réviser les jugements qu'ils ont émis au cas où ceux-ci peuvent s'avérer être des poudrières pour la situation sociale à l'intérieur du pays. Parce que si l'est du pays est déjà embrasé comme il est depuis une trentaine d'années, je crois qu'il n'est pas nécessaire de mettre tout le pays en situation d'émoi pour des raisons électorales. Donc pour moi, là il y a une sonnette d'alarme qui est tirée par rapport aux organisateurs du processus électoral, par rapport également aux dirigeants qui sont aux affaires actuellement. C'est à eux de prévenir ce genre de situation pour éviter qu'elle débouche sur des situations incontrôlables à l'avenir.
Merci, Madame Élisée Odia, la CENI d'y avoir enrôlé jusqu'au 7 février dernier 64,35% des personnes attendues dans la première ère opérationnelle. Et comment vous réagissez aux chiffres avancés par la CENI, Madame Odia?
Je ne vais pas dire si je suis surprise, mais je me dis que, apparemment, la CENI se dit que tout se passe pas du tout mal. Avoir 12 millions d'enrôlés, je crois, pour la première ère opérationnelle, je crois, si je ne me trompe pas, l'ère opérationnelle 1, qui comporte un peu toutes les provinces de la partie ouest de la République démocratique du Congo, c'est pas si mal que cela, mais il est un fait que le début a été un tout petit peu chaotique, et il n'y a pas que moi qui le dis, le président de la CENI l'a reconnu à maintes reprises, mais moi, en tant que journaliste, je crois que je serai, si on aura effectivement des élections en 2023, je serai à ma troisième couverture des élections en République démocratique du Congo. Et là, j'assiste pratiquement aux mêmes choses qu'on disait en 2011, en 2015, avant les élections de 2018, avant les élections de 2011. Le processus d'enrôlement a toujours été un peu compliqué, le début a toujours été difficile. Ce sont pratiquement les mêmes remarques qui reviennent. Ça se demandait que pourquoi il n'y a pas une nette amélioration. On est en droit de se poser. Après 3e, 4e cycle électoral, on s'attendait à mieux. Mais c'est une sorte de rhétorique. À chaque cycle électoral, en République démocratique du Congo, chaque fois qu'il y a enrôlement, on se retrouve avec des difficultés. On se retrouve avec les accusations de corruption de ceux qui sont commis dans les centres d'enrôlement. On se retrouve avec des machines qui ne marchent pas totalement. Mais apparemment, après ce temps d'essai, si on peut se dire, après une semaine, deuxième semaine dans la première ère opérationnelle, on peut se dire que tout semble maintenant marcher, à en croire le dernier déplacement du président de la CENI dans l'ère opérationnelle 2, c'est-à-dire l'ère qui comprend l'espace Kasaï et l'espace Katanga, et c'est l'autosatisfaction pour le président Denis Kadima. Tout semble se passer plutôt normalement. Les agents ont désormais la maîtrise de l'outil informatique. Il y a moins de problèmes que dans la première ère opérationnelle. On espère que tout va se passer normalement. On aura moins de problèmes d'ici la fin de ce processus d'enrôlement, mais le regard reste braqué sur la partie est du pays, la troisième et dernière ère opérationnelle. C'est là où tout va se jouer, parce que là, il n'y aura pas que la problématique des machines, il n'y aura pas que la problématique des agents qui sont soudoyés pour obtenir la carte, il y aura la donne sécuritaire qui va entrer en compte, on attend, voire la CENI, comment elle compte se déployer dans la zone Est et la troisième aire opérationnelle du pays et comment ça va se passer. C'est là où vraiment on l'attend au tournant.
Merci, on finit par là, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à Madame Élisée Odia, journaliste indépendante. Monsieur Placide Moukoua, vous êtes membre de la société civile et premier vice-président de la société civile de la province du Kwilu. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Monsieur Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais. Vous êtes écrivain et président du club de l'information africaine. Merci aussi à Dieudonné Nyangassa, Wanyangassa, qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et Christian Lomombe, DJ Dadi, sous la supervision de Martin Savoujangwe, d'Alex Essomé, d'Etienne Rodjari, à la réalisation Lèche Walassa, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Otielinga Lobokona Ditama de Kabasele Tchamala, alias Grand Calais, qui totalise 40 ans dans l'au-delà. C'est samedi 11 février 2023. Et on se retrouve le samedi prochain.
Otielinga Lobokona Ditama, okomi lokolo yotinga na sango. Ata konga na boma moto, olo belangai, bongo nga na yebao. Patika kazua, mobali nangai, yebisangai, bongo nga na bananye. Patipe kanda ya pamba na yebao, na bondelao, kanda esilao. Otielinga loboko na litamao, woko milokolo yo ingara sango. Atako ngara boma moto, kolo belangai, bongo nga na yebao. Watika kazua, mobali nangai, yebisangai, bongo kaya bandanye. Watipe kanda ya pamba na yebao, na bondelao, kanda esilao. Mau, oko milokolo yo kingana sango. Ata konga na boma moto, kolo belangai, bongonga na yebao. Wakika kazuwa, mobali nangai, yebisangai, bongonga na bandanye. Wakipe kanda ya pamba na yebao, na bondelao, kanda esilao. Balobi yangai na yo. Mon amour.